confrontations avec les civils. Est-ce que vous m'entendez là-bas au fond? Ça va? Bon, je peux pas. Donc, je disais que je suis très heureux de vous retrouver, puisque vous savez que la Fondation avait décidé de consacrer 3 soirées de rencontres dans la foulée à cette crise qui secoue l'Église catholique. Nous avions commencé, je vous le rappelle, en novembre, à parler de du cléricalisme, puis en décembre, à parler des abus sexuels dans le clergé. Et vous avez apparu enfin, bien entendu, à la faveur de l'occasion plutôt de cette crise. Nous savons très bien que se pose le problème aussi des droits canons au regard du droit civil. Donc c'est un sujet un petit peu complexe et qui nous oblige à faire appel à des personnes compétentes, des experts en la matière. Et c'est pour cela que nous avons invité 2 magistrats, dans la mesure où je crois qu'ils pourront répondre et nous dirons à cette articulation entre droit canon et droit civil, mais aussi peut-être faire allusion à tout l'environnement qui procède à cette situation, en ce moment qu'est-ce qui fait que la loi du silence a tant prévalu dans l'Église et continue aussi d'être importante dans la mesure où justement ce qui se fait dans les tribunaux ecclésiastiques et ce qui se fait dans les tribunaux civils, ce n'est pas tout à fait la même chose, donc d'où la complexité et d'où notre souci de clarifier les choses. Nos 2 invités donc sont Olivier Échappé, à ma gauche, qui est conseiller doyen à la 3e chambre civile de la Cour de cassation, professeur associé à la faculté de droit catholique de l'Institut catholique de Paris. Il a par ailleurs participé aux cellules des questions relatives aux cellules de suivi des questions relatives à la pédophilie à la conférence des évêques de France. À lui, j'ai sûrement envie de lui poser des tas de questions, mais vous le ferez aussi, vous, à la fin. Je pense beaucoup à des mots-clés comme le secret de la confession. Est-ce qu'il s'apparente vraiment au secret professionnel ou est-ce qu'il s'en distingue? Est-ce qu'il peut constituer une entrave à cette révélation d'un crime? Et autre question, bien sûr, très sensible. On sait qu'un cardinal de la Curie a été convoqué par les juges à l'occasion du procès du cardinal Barbarin, et qu'il ne s'y paraît rendu faisant référence à son immunité diplomatique. Encore un point peut-être à clarifier, peut-être à l'occasion ce soir. À ma droite, Luc-Michel Nivaux, qui est conseiller également à la Cour de cassation, professeur associé à la Sorbonne, ancien président de la Cour d'assises de Paris, et qui également qui a été consultant auprès de la conférence des évêques. À lui, j'aurais aussi d'autres, bien sûr, questions à poser, mais j'ai beaucoup pensé également à ce terme clé du délai de prescription. Dieu sait si on en a parlé, notamment à l'occasion du dernier procès à Lyon, ce fameux délai de prescription. Est-ce que ces affaires sont-elles empoisonnées par tout le débat autour de ce délai de prescription? Et puis aussi, puisque c'est un expert, comment aujourd'hui peut-on qualifier une agression sexuelle, puisqu'il faut être précis sur tous ces faits et sur tous ces sujets, Dieu sait s'ils sont sensibles. Alors voilà ce qui m'amène donc à donner la parole à nos 2 invités. Je les remercie déjà d'avance d'avoir consacré un peu de temps pour être présents parmi nous. Je pense que nous allons donner la parole à Luc-Michel Nivaux, mais au préalable peut-être un petit mot.
Remercier. Merci. Bon, je parle fort en général. Très bien. Merci. Un mot pour vous remercier d'abord de nous avoir invités à venir réfléchir avec vous sur cette question alors, de la pédophilie dans l'Église, c'est-à-dire en stricte rigueur du droit canonique de la pédophilie des clercs, puisque le droit canonique n'aborde que cette question-là. Et évidemment, nous savons tous qu'il s'agit pour l'Église d'une crise majeure à l'échelle universelle, pas seulement à l'échelle française, auquel elle se trouve confrontée avec acuité depuis un certain nombre d'années, depuis quelques années. Alors, la réprobation de la pédophilie, c'est pas une affaire nouvelle. Un peu pour nous mettre dans l'ambiance, je me suis permis d'amener un très vieux texte, la Didache, fin du 1er siècle. Alors, ce texte dit très clairement, dans la partie second commandement de la doctrine, « Tu ne te livreras pas à la corruption d'enfants ». Donc vous voyez que dès la fin du 1er siècle, la question était ouverte et la réponse était particulièrement claire et nette dans ce très vieux texte. Alors, 2000 ans après, presque 2000 ans après, je ne dirais pas que nous en sommes au même point, mais la question est toujours ouverte. Comment est-ce qu'on peut aborder cette question? D'abord, c'est un problème juridique. C'est un problème juridique parce que c'est par le droit qu'on l'appréhende dans un premier temps, et par une branche du droit
bien particulière qu'est le droit pénal. Alors, une fois qu'on a dit cela, évidemment, il faut aussitôt ouvrir une distinction, parce qu'il y a deux droits pénaux, le pluriel pour ce mot-là, hein, deux droits pénaux qui rentrent en ligne de compte, en concurrence ou en collaboration, le droit pénal civil et le droit pénal canonique. Et c'est pour cette raison qu'il nous a paru, en discutant avec nos organisateurs, qu'il nous a paru utile de vous donner peut-être les deux regards de ces deux disciplines sur cette question. Je remercie Luc-Michel Nivose d'avoir accepté de parler sur le droit pénal des infractions sexuelles français, et puis je dirai quelques mots sur le droit pénal canonique des infractions sexuelles. Évidemment, derrière les aspects juridiques, il y a un autre aspect qui doit être présent dans notre réflexion, aussi bien pour les civilistes que pour les canonistes, c'est le côté, j'allais dire, sociologique, ou psychologique d'ailleurs, pour ne pas dire psychiatrique, qui se trouve derrière cette question. Et évidemment, on le retrouve là encore, décliné de façon différente, dans les deux domaines, le domaine civil et le domaine canonique. Pour le domaine canonique, évidemment, ça pose des questions qui sont directement ecclésiologiques. Voilà, pour vous annoncer, contextualiser un peu notre intervention à deux voix, et rendre aussitôt la parole à Luc-Michel pour vous parler des infractions sexuelles en droit civil français.
Je vous remercie. Alors, en ce qui me concerne, je vais me borner à vous parler du droit pénal français, c'est-à-dire des questions qui sont préoccupantes et des questions qui permettent, des questions techniques qui vont permettre de comprendre les différents débats que nous vivons actuellement. Alors, en fait, premier point, d'abord, il y a trois catégories d'infractions en droit français. Alors, premier point, il y a trois catégories d'infractions. Il y a trois places devant, là, si vous voulez. Alors, il y a trois catégories d'infractions en droit pénal français, classées selon les gravités. Les crimes, ce sont les infractions les plus graves pour lesquelles est encourue une peine de réclusion criminelle égale ou supérieure à 15 ans et qui sont jugées par la cour d'assises. La cour d'assises étant composée de trois magistrats professionnels, présidés par un magistrat de la cour d'appel, et des jurés qui sont au nombre de 6 actuellement. Les délits, ce sont des infractions punies d'une amende ou d'un emprisonnement qui ne peut pas aller au-delà de 10 ans, et qui sont jugés par le tribunal correctionnel, qui est composé par 3 magistrats, c'est la chambre pénale, en fait, du tribunal de grande instance. Et enfin, les contraventions, qui sont les infractions les moins graves, punies simplement d'une peine d'amende, qui ne peut pas être supérieure à 1 500 €, les infractions étant définies par le pouvoir réglementaire. Alors, cette classification tripartite des infractions est appelée la summa divisio par les pénalistes français. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout le régime pénal va dépendre de la classification de l'infraction. Par exemple, en matière criminelle, l'instruction est obligatoire. Ça veut dire qu'il y aura nécessairement un juge d'instruction qui sera saisi du dossier, qui aura instruit à charge et à décharge. De la même manière, la détention provisoire va être supérieure en matière criminelle. On peut aller jusqu'à 2 ans de détention provisoire pour un délinquant primaire, alors que ce ne sera pas la même chose pour les délits. Et puis, la tentative de crime est toujours punissable, alors que la tentative de délit n'est punissable que si la loi le prévoit. Et dernier point, eh bien, en matière criminelle, il n'y a que des infractions intentionnelles, alors qu'on trouve des infractions de mise en danger, des infractions d'imprudence, en matière correctionnelle, vous voyez, donc on voit bien la différence de gravité des infractions. Cette différence, d'ailleurs, se traduit dans ce qu'on appelle la prescription de l'action publique. La prescription de l'action publique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand une infraction est commise, on doit la poursuivre pendant un certain temps. Et il y a une théorie dans notre droit français, c'est que, passé un certain temps, eh bien, on ne peut plus poursuivre une infraction, même les plus graves. Ainsi, traditionnellement, le délai était de 10 ans pour la prescription des crimes, de 3 ans pour la prescription des délits et d'un an pour la prescription des contraventions. Ces prescriptions ont été très sérieusement allongées par la loi du 27 février 2017. Donc vous voyez, quand je vous dis ça, c'était il y a à peine 2 ans, puisque nous allons être en février 2019 prochainement. Et on est passé à 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits, et on n'a pas changé le délai d'un an pour les contraventions. Par ailleurs, une loi du 4 février 1975 avait signalé que lorsqu'un crime ou un délit était commis à l'égard d'un mineur, la prescription du crime ou du délit ne commençait à courir qu'à compter de la majorité de l'enfant. L'idée, c'est quoi ? C'est que très souvent, les mineurs sont victimes de gens de leur entourage et ils ne peuvent pas agir tant qu'ils sont mineurs puisqu'ils sont incapables au sens de la loi. Eh bien, on a fait démarrer le point de départ de la prescription à partir de 18 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 2017, pour un crime qui est commis contre un mineur, eh bien, on pourra jusqu'à l'âge de 38 ans dénoncer le crime dont on a été victime, ce qui est une révolution par rapport à la situation antérieure. Vous voyez, parce que si vous regardez avant 1995, passé 10 ans, quelle était la solution? Eh bien, un mineur qui était victime de faits à 10 ans, par exemple, à 20 ans, c'était terminé, il ne pouvait plus agir. Alors, dernière précision. Il y a un principe en France qui est le principe de la légalité. Et ce principe de la légalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on ne peut pas être poursuivi pour une infraction qui n'est pas prévue par la loi. Et ce principe de la légalité a deux corollaires qui sont fondamentaux, qui est la non-rétroactivité de la loi pénale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un pour une infraction qui n'était pas définie avant qu'il ait commis les faits. Et deuxièmement, il y a un principe d'interprétation stricte de la loi pénale, dont je vous dirai un mot au fur et à mesure de mes explications. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous pour que vous compreniez bien tous les mécanismes, c'est le système qu'on appelle de la correctionnalisation judiciaire. Qu'est-ce que c'est que la correctionnalisation judiciaire? Vous imaginez bien que si on poursuivait tous les crimes, on va prendre un exemple en matière de vol, par exemple. Le vol avec arme, vous voyez, puni de 20 ans de réclusion criminelle. Imaginez, on vous prend votre portable en vous menaçant d'un couteau, c'est 20 ans de réclusion criminelle en cours. Il est évident que si on renvoyait ces affaires-là devant les cours d'assises, ça bloquerait les cabinets d'instruction, ça bloquerait tout le système judiciaire. Alors les parquets ont pratiqué ce qu'on appelle la correctionnalisation judiciaire, ça veut dire quoi? Eh bien on va dire c'est un vol avec violence et on oublie la circonstance que c'était un vol plus la circonstance qu'il y avait une arme, et c'est ce qu'on appelle correctionnalité. Alors ce que je veux vous faire comprendre, qui est très important, c'est que la correctionnalisation suppose l'assentiment de toutes les parties au procès pénal et des juges qui vont décider qui vont avoir à juger l'infraction. Ça veut dire que si une victime soulève l'incompétence, si un prévenu soulève l'incompétence, si le parquet au moment de l'audience soulève l'incompétence, ou si le tribunal lui-même dit non, les faits sont de nature criminelle, je ne peux pas les juger, eh bien l'affaire sera renvoyée devant une cour d'assises. Mais ce système de la correctionnalisation fonctionne parce qu'il a l'accord de toutes les parties, on pourrait dire, erant communis facitius, c'est-à-dire que dès lors que tout le monde est d'accord, eh bien on ne peut pas s'y opposer. Mais en fait, ça permet de transformer un crime qui est un crime au sens de la loi en délit, et vous voyez bien que c'est une atteinte quand même importante au principe de la légalité. Alors venons-en maintenant aux infractions sexuelles. La première grande loi sur les infractions sexuelles est une loi du 23 décembre 1980, et elle a été importante. Pourquoi? Parce que à l'époque, eh bien, agression sexuelle et viol étaient punis de peines délictuelles, et il n'y a que les infractions aggravées qui étaient des crimes. Il y a eu un bouleversement de cette situation avec le nouveau code pénal entré en vigueur en 1994 qui a dissocié agression sexuelle et viol, et le viol est une infraction criminelle alors que l'agression sexuelle est un délit. Donc vous voyez, on est dans cette différence de catégorie d'infraction, puisque l'agression sexuelle est un délit alors que le viol est un crime. Alors l'agression sexuelle, elle est définie à l'article 222-22 du code pénal. Et elle suppose deux éléments. Un élément matériel, c'est-à-dire une atteinte sexuelle. Voilà ce que dit le texte, je vous le lis. Constitue une agression sexuelle, toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est tout ce que dit le texte. Le texte avant 80, d'ailleurs, disait le viol est puni de, on ne donnait pas de définition. Et les juges avaient défini le viol comme le fait qu'un homme ait un rapport sexuel avec une femme. Et il y avait toute une série de discussions. Il fallait que la femme soit susceptible d'être enceinte, et c'est ça qui constituait le viol, vous voyez. Alors il suffisait de dire mais la femme ne pouvait pas être enceinte, ou elle était ménopausée, ou etc. Et dès lors, on éliminait l'idée du viol, puisqu'elle ne pouvait pas être atteinte de cette façon. Alors c'est pour ça que la loi moderne a été complètement différente, et elle a été beaucoup plus réaliste. Et donc, l'élément matériel, vous voyez, c'est l'atteinte sexuelle. Alors, l'atteinte sexuelle, je vous ai dit tout à l'heure, principe d'interprétation stricte, eh bien c'est compliqué finalement, parce que l'atteinte sexuelle, est-ce que c'est uniquement l'appareil sexuel, ou est-ce qu'une femme, si vous lui touchez les seins, c'est une atteinte sexuelle? La Cour de cassation, avec beaucoup de bon sens, a dit, eh bien évidemment, toutes les parties intimes de l'individu, dès lors qu'on porte atteinte à l'intimité de l'individu, c'est une atteinte sexuelle. Donc si vous touchez les seins d'une femme, c'est une atteinte sexuelle. Si vous caressez les fesses d'une femme dans le métro, c'est aussi une atteinte sexuelle. Pareil, si vous caressez le haut des cuisses, nous avons de la jurisprudence dans tous ces éléments et dans tous ces domaines. On peut
sans
dire
consentement,
bon,
quand même.
Mais je vais dire après l'autre élément. Hein, bien
le 6, quand même, pour ne pas.
Laisse-moi continuer. Alors, ces actes, donc il faut que ce soit des actes à connotation sexuelle, sans pénétration, donc les caresses, les frottements, l'utilisation de la langue sur des parties intimes de l'individu et de la personne, constituent une atteinte sexuelle et donc une agression sexuelle. Alors, deuxième élément, c'est qu'il faut une absence de consentement de la victime. Grâce à Dieu, si une femme est d'accord et qu'on la caresse, eh bien, on ne risque rien, ce qui est quand même plutôt normal. Alors, l'absence de consentement prévoit qu'il faut qu'il y ait violence, contrainte, menace ou surprise. La Cour de cassation a eu l'occasion de détailler toutes ces choses-là. Violence, on comprend, on met un couteau sous la gorge d'une personne, etc. C'est de la violence et c'est facile à caractériser. La contrainte, eh bien, c'est beaucoup plus délicat et le code pénal a évolué. Et aujourd'hui, le législateur s'est senti obligé de dire que la contrainte pouvait être physique ou morale. Voyez. Et la contrainte, eh bien, par exemple, moi, c'est un exemple que je donne des fois à mes étudiants. Vous dites à un jeune garçon, je te permets de regarder tel film si tu me fais une fellation. C'est une forme de contrainte, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que la contrainte, elle peut exister dès lors qu'on va demander quelque chose. Donc, ou bien quelqu'un qui est dans une situation économique difficile, on a des affaires dans le 93 actuellement, d'hommes qui louent des appartements à la condition qu'on ait un rapport sexuel avec eux. Vous voyez, c'est le prix d'entrée dans l'appartement. Eh bien, la jurisprudence a décidé que le fait... Alors, la jeune femme, elle veut absolument se loger. Elle est d'accord pour coucher avec le propriétaire puisque c'est la seule condition pour avoir son logement. Et si elle veut son logement, elle va coucher avec le propriétaire. Mais la Cour de cassation a dit, voilà, là c'est de la contrainte quand même. C'est-à-dire c'est de la contrainte qui résulte de la situation économique et de cette situation difficile pour la personne. Et puis la jurisprudence, alors, donc la menace, on a compris. La contrainte, on a compris. La surprise. La surprise, on avait, Olivier Échappé a été avec moi, conseiller référendaire à la chambre criminelle, et nous avons eu cette affaire en même temps. Eh bien, c'est deux garçons qui vont dans une chambre d'hôtel avec une jeune femme. La jeune femme est la petite amie de l'un des deux, et puis l'un des deux, le petit ami va dans la salle de bain, l'autre est là, et puis l'autre revient, et il a un rapport sexuel avec la fille qui lui dit, bah, dis donc, t'es en forme aujourd'hui, et puis quand elle se retourne, elle s'aperçoit que c'est pas son petit ami, mais c'est l'autre copain. Et ça, c'est exactement la surprise, vous voyez. Ou bien, chose qu'on peut imaginer, une jeune femme, elle est d'accord pour se laisser caresser, etc., mais pas pour avoir un rapport sexuel, et puis, dans la chaleur des ébats, le garçon va au-delà de la volonté de la jeune femme. Eh bien, ça pourrait être une surprise, et la surprise peut être caractérisée de cette façon. Alors, dernier point, eh bien, c'est la question des enfants en bas âge sans discernement. Ou bien, comme on a vu aussi à la chambre criminelle, une affaire, une jeune femme qui est allongée sur un lit d'hôpital, elle est sous perfusion, et un garçon de salle qui passe, il la trouve appétissante, et il a un rapport sexuel avec elle. Il est évident qu'elle n'a pas dit non, vous voyez, elle était complètement dans le coma et sous perfusion. Eh bien, la Cour de cassation a dit que la contrainte était caractérisée dans cette situation-là. Alors, ce qui est important, c'est que la peine encourue est de 5 ans, vous voyez, pour l'infraction... je dirais de base, et elle peut être aggravée avec des circonstances, et notamment la minorité de 15 ans. Alors vous savez que les juristes ont un terme, quand on dit mineur de 15 ans, c'est un enfant qui a moins de 15 ans, c'est pas la peine de dire, on dit pas mineur de moins de 15 ans, c'est un mineur de 15 ans, ça veut dire un enfant qui a moins de 15 ans par définition. Et la peine peut monter jusqu'à 10 ans s'il y a d'autres circonstances aggravantes ou des personnes particulièrement vulnérables. Alors le viol, il est défini à l'article 222-23 du Code pénal, et on le définit comme ça. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Alors vous voyez, c'est intéressant parce qu'on retrouve exactement le même élément de violence, contrainte, menace ou surprise, et simplement, ce qui différencie le viol de l'agression sexuelle, eh bien, c'est que le viol est une agression sexuelle avec pénétration. Alors, du temps où Olivier et moi étions à la chambre criminelle, on avait décidé qu'une fellation, qu'elle soit imposée ou exigée, c'est-à-dire que l'auteur soit que la victime soit pénétrée ou soit pas pénétrée. Vous voyez, par exemple, vous faites une fellation à un garçon de 13 ans, eh bien, c'est pas la victime qui est pénétrée. On avait décidé, à notre époque, que c'était un viol dans les deux situations. Nos collègues ont changé la jurisprudence en disant, en interprétation stricte de la loi pénale, comme on dit, pénétration sur la victime, il faut que ce soit la victime qui soit pénétrée. Le législateur a voulu contredire cette interprétation jurisprudentielle, et voilà ce que dit maintenant la loi depuis 2017. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, etc., est un viol. Donc, si vous voulez, ce qu'on peut dire aujourd'hui de manière très claire grâce à cette nouvelle rédaction, c'est que toute agression sexuelle avec une pénétration constitue un viol. Ce qui est assez logique dans l'esprit du législateur, je pense, c'est que finalement, les agressions sexuelles qui sont superficielles sont des agressions sexuelles, alors que, enfin, les atteintes sexuelles qui restent sur la superficie du corps sont des agressions sexuelles, alors que s'il y a une pénétration, ça devient un viol. Et nous avons jugé que une pénétration anale avec une carotte est un viol, vous voyez, c'est-à-dire que là aussi on pourrait dire interprétation théorique de la loi pénale, l'anus n'est pas un sexe, la carotte c'est pas sexuel, et donc il n'y a rien de viol là-dedans. La Cour de cassation aujourd'hui a une jurisprudence très claire sur ce point. Alors, on voit donc que nous avons comme ça les deux infractions de base, et ce qu'on peut dire c'est qu'il existe d'autres catégories d'infractions à côté de l'agression sexuelle, et je voudrais vous en dire un mot. Alors, la loi a été modifiée, et c'est pour ça que je vous ai parlé aussi des questions d'application de la loi dans le temps, parce que quand on va étudier des faits, vous voyez, par exemple, si on a parlé tout à l'heure du cardinal Barbara, on lui reproche des faits de 91. On ne peut appliquer que la loi pénale qui était prévue en 91, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas appliquer une loi pénale d'aujourd'hui qui serait une rétroactivité de la loi pénale. Vous voyez ce que je veux dire, ça c'est absolument évident. Alors c'est pour ça que c'est des fois compliqué, ça veut dire qu'il faut regarder d'abord la date des faits, puisque c'est ça qui va gouverner la loi applicable, et ensuite il faut voir quelle est la loi applicable. Alors, notamment le législateur a précisé qu'entre époux, parce que la Cour de cassation a jugé que le viol entre époux était possible, ça a fait beaucoup de débats d'ailleurs à notre chambre quand on a eu cette affaire, puisque les gens disaient ben, dans le couple il y a un devoir, de cohabitation, de sexualité, etc. Mais l'idée elle est simple, c'est que le mariage c'est une relation de liberté, on ne peut pas dire autrement, et si l'un des deux n'est pas consentant, eh bien, on ne peut pas lui demander de force. On peut dire c'est une atteinte au devoir et obligation du mariage et je demande le divorce ou je demande la séparation, mais on ne peut pas imposer à quelqu'un des choses qu'il n'a pas, pour lesquels il n'est pas consentant. Alors ça, c'est absolument évident. Le législateur l'a prévu aujourd'hui en disant que ça peut résulter des rapports des personnes et que même si on est dans ces rapports de mariage, de partenariat, de concubinage, eh bien, on peut quand même être coupable de viol. Le législateur a précisé aussi que la différence d'âge entre la victime et l'auteur peut justifier la contrainte. C'est-à-dire que l'autorité qu'on a sur la victime ou bien la différence d'âge peut justifier la contrainte. Et par conséquent, le législateur l'a dit expressément dans des articles 222-22-2. La nouvelle nomenclature du droit pénal permet comme ça d'ajouter des articles assez facilement. Alors, on s'aperçoit aussi que le législateur a une sorte d'appréciation de la minorité pénale d'une personne, c'est-à-dire qu'il y a un âge qui est... Vous savez que la majorité pénale, elle est à 18 ans, mais pour la majorité sexuelle, il y a une majorité sexuelle, on peut dire, à 15 ans. Ça veut dire clairement que une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est réprimée et est punie de 7 ans d'emprisonnement. Non, de... Je croyais que c'était 2 ans d'emprisonnement. Mais apparemment, ça a changé, modifié par la loi de 2018. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une atteinte sexuelle ? Eh bien, vous avez un adulte qui a un rapport consenti avec un mineur de 15 ans, eh bien, c'est une infraction pénale quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, eh bien, le mineur avait 13 ans, 14 ans, il était d'accord, et par conséquent, vous voyez, il y a cette idée que si on a un rapport sexuel avec un mineur de 15 ans, même si ce mineur est consentant, c'est-à-dire s'il n'y a pas de menace, contrainte ou surprise, c'est quand même une atteinte sexuelle. Alors, le harcèlement sexuel aussi est réprimé. On admet comme harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc le fait d'user de pression répétée sur quelqu'un peut constituer un harcèlement sexuel. Puni de 2 ans d'emprisonnement, vous voyez, le harcèlement sexuel. Et si on abuse des fonctions qui nous sont conférées, on passe à 3 ans d'emprisonnement. Alors, le harcèlement peut prendre diverses formes. Propos, plaisanteries sexistes, propositions sexuelles souvent accompagnées de promesses d'avantages, embauches, promotions, etc. Ou de menaces. Le plus souvent, le harcèlement induit un climat malsain et grossier. C'est une infraction qui est quand même compliqué à mettre en évidence, parce que les auteurs disent souvent « j'avais une volonté de séduction sexuelle ». Vous savez, on parle de la gauloiserie française ou de la galanterie française. J'ai envie de dire que les Français n'ont pas tous la même conception de la galanterie, en tout cas, certainement pas en utilisant des propos grossiers à l'égard d'une femme. Vous voyez. Alors, le harcèlement est puni de 2 ans d'emprisonnement, et lorsque le mineur est mineur de 15 ans ou lorsque la personne abuse des fonctions qui lui sont conférées, eh bien, on a là une augmentation des peines. Il y a ensuite la corruption de mineurs. Alors, c'est intéressant parce qu'Olivier, vous avez lu tout à l'heure un article qui parlait de la corruption de mineurs. Vous savez que pour notre génération, la corruption de mineurs, c'était avant l'attentat à la pudeur. C'est comme ça qu'on l'appelait, en fait. On attentait à la pudeur d'une personne. Et donc, on a remplacé cet attentat à la pudeur par la corruption de mineurs. Et c'est quoi? C'est se livrer à des actes immoraux ou impudiques en présence d'un mineur. Puni de 5 ans d'emprisonnement. Alors ça veut dire que, par exemple, lorsque vous avez un couple qui a un rapport sexuel devant un mineur ou qui se livre à des débats sexuels devant un mineur, ça s'appelle une corruption mineure et c'est puni par le code pénal. On punit aussi les propositions sexuelles à un mineur de 15 ans lorsqu'elles sont faites par Internet. Et vous voyez, proposition faite par un majeur à un mineur de 15 ans en utilisant Internet, c'est une infraction pénale. Cette infraction est constituée même si les propositions n'ont pas abouti. Si les propositions aboutissent, eh bien, il y a une circonstance aggravante. Et si la proposition conduit à un acte sexuel, on a l'infraction sexuelle qui est celle que je vous ai dit tout à l'heure. Alors, il y a aussi l'atteinte à la moralité d'un mineur. C'est le fait d'envoyer des messages à caractère pornographique ou de faire commerce de tels messages, exemple d'inciter les mineurs à faire ce type d'acte. Alors, il y a un dernier point dont je voulais vous parler, c'est on a des infractions qui sont... en droit français, vous avez beaucoup d'infractions qui sont des interdictions, vous voyez, et puis on a des infractions qui sont des obligations de faire quelque chose. Par exemple, vous voyez, en matière de circulation routière, on vous oblige à allumer vos codes quand il fait nuit, et bien c'est une infraction où on va sanctionner le fait qu'on n'a pas agi dans un sens. Il y en a très peu en droit pénal. La plupart des infractions en droit pénal sont des infractions d'interdiction. Mais il y a quand même des infractions qui obligent à agir. Alors, il y a l'infraction qu'on appelle dans la presse la non-assistance à personne en danger ou en péril, qui s'appelle dans le code pénal l'omission de porter secours. Cette infraction est prévue par l'article 223-6. Et je vous la lis parce qu'elle est importante. Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne, s'abstient de le faire et punit de 5 ans d'emprisonnement. Donc voyez-vous, c'est quand même une chose importante, et quand on parle des situations de l'Église aujourd'hui, eh bien on se dit, quelqu'un qui sait et qui ne fait rien, il peut être coupable de cette omission de porter secours. Alors, il y a aussi le délit d'entrave à l'exercice de la justice. Et là, j'attire votre attention, vous avez vu que l'omission de porter secours, on parle d'un crime ou d'un délit. L'entrave à la justice, on parle quiconque ayant connaissance d'un crime qu'il est encore possible de prévenir ou d'en limiter les effets ou d'empêcher les auteurs de commettre de nouveaux crimes doit informer les autorités judiciaires et administratives. Ça ne vaut que pour les crimes, ça ne vaut pas pour les délits. Donc, il y a normalement aussi des personnes qui sont astreintes au secret. Je pense au secret de la confession, je pense au secret médical, je pense aussi au secret de l'avocat. Eh bien, on ne pourra pas se réfugier derrière le secret et les personnes qui sont astreintes au secret seront quand même obligées de parler. C'est expressément prévu par le Code pénal à l'article 226.13 du Code pénal. Alors, le dernier point, c'est la lecture de cet article. Eh bien, le fait pour quiconque ayant connaissance d'agression ou d'atteinte sexuelle infligée à un mineur de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé et plus de 3 ans d'emprisonnement. Alors, c'est la question, c'est cet article 434.3 qui est visé dans les plaintes contre le cardinal Barbarin. Et là, il y a une question très intéressante pour nous juristes, c'est que la Cour de cassation avait toujours dit que cette infraction était une infraction instantanée. C'est-à-dire que quand on a connaissance de l'infraction, on la dénonce. Mais dès qu'on a de la connaissance, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où on a connaissance, vous voyez, de l'infraction. Donc, comme c'est un délit, 3 ans après, on ne pouvait plus être poursuivi puisque l'infraction était prescrite. La loi a été modifiée pour faire de cette infraction un délit continu. Et j'ai regardé dans les comptes rendus qui sont faits dans l'affaire Barbarin, les avocats des parties civiles plaident que c'est une infraction continue et que, sauf que la jurisprudence antérieure à la modification de la loi qui est du 3 août 2018 disait que c'était une infraction instantanée. Alors vous voyez, ça c'est très intéressant pour les juges qui vont avoir à juger cette affaire. Eh bien, et ils seront obligés d'appliquer la loi pénale en vigueur au moment des faits, c'est-à-dire de dire que c'était une infraction instantanée et que dès lors... J'ai regardé aussi, parce que c'était intéressant, la décision de classement sans suite qui avait été rendue dans l'affaire Barbarin, et quand on voit la situation, je ne veux pas me faire un prophète de quoi que ce soit, mais enfin, il est couru pour moi, magistrat, vous voyez, qu'on va à une relâche dans cette affaire. Parce que... Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, on pourrait dire un dernier mot là-dessus, c'est la justice civile, la justice des hommes, quelquefois, elle est utilisée pour que des parties civiles aient une tribune. Et dans une affaire comme celle-là, elle est intéressante parce que le parquet a renoncé aux poursuites compte tenu du fait que l'infraction était prescrite. C'est-à-dire pour un parquetier qui lance l'action publique, ça ne sert à rien de lancer une action publique qui est prescrite. Vous voyez, ça ne voudrait rien dire. Mais on ne peut pas empêcher des parties civiles de faire une citation directe devant la juridiction pour saisir la juridiction. Mais sincèrement, et sans m'avancer beaucoup, je pense que les juges ne pourront pas faire autrement que de constater que les faits étaient prescrits et que les infractions ne sont plus punissables. Alors ça, c'est un autre domaine de notre droit, c'est-à-dire qu'on accepte la prescription. Le droit britannique, par exemple, n'accepte pas la prescription. Il n'y a pas de prescription en droit anglais. C'est pour ça que des fois, les gens qui raisonnent en comparant des situations en Angleterre ou chez nous, eh bien, vont faire des comparaisons qui ne sont pas valables parce que les droits ne sont pas forcément identiques. Je vous remercie.
Merci d'avoir adressé ce panorama de la justice du droit en France de façon tout à fait claire et surtout illustrée par tout ce qui concerne l'environnement actuel de cette actualité liée à l'Église. C'est donc un bon moyen de nous éclairer et nous dire en quoi exactement il y avait des liens, puis alors des problèmes de compréhension mais aussi d'articulation entre ces deux domaines.
Merci beaucoup. Comme vous le voyez, le droit pénal civil est un droit très technique, très évolutif aussi, parce qu'il est très articulé sur les évolutions de la société, puis il n'est pas très pudibond. Hein. Il faut appeler un chat quand on fait du droit pénal. Bon, le droit pénal canonique est quand même très différent. D'abord, il est beaucoup plus pudibond. Il fut un temps même, moi j'ai étudié le droit pénal canonique dans un vieil ouvrage théoriquement en français de 1930, dû à un digne prêtre du diocèse de Quimper, le père Pellet. Et alors, quand on arrivait à la partie des infractions sexuelles, eh bien, il passait au latin. Donc le livre est au 9/10 en français, sauf le chapitre sur les délits contre le sexe, c'est-à-dire le 6e commandement. Hein. Voilà, c'est vous dire que l'Église est beaucoup plus pudibonde par rapport à ces affaires-là. Bon. Il y a une autre caractéristique aussi qui explique les différences, c'est que le droit pénal canonique, pour cette question des infractions sexuelles, ne s'intéresse qu'au clair. Hein. Autant, comme vous le voyez, le droit civil français est indifférencié puisqu'il s'adresse à tous les ressortissants qui soient clairs ou pas clairs, hein. Le droit pénal français ne fait pas un sort particulier aux clercs. Ils sont abonnés au droit commun du droit pénal. Tandis qu'en droit pénal canonique, eh bien, le droit pénal canonique ne connaît une infraction que, en matière sexuelle, que pour les clercs. Il n'y a pas d'espace pour les non-clercs. Alors, la définition du clerc, c'est une question un peu compliquée. Ce n'est pas seulement les seuls prêtres. Ça va un peu plus loin que les prêtres, puisque sont aussi les clercs, les diacres permanents, donc les diacres mariés. Pour l'Église, ça pose d'ailleurs des problèmes de tous ces permanents pastorales qui sont laïcs, mais qui néanmoins sont quand même bien appartenant à la structure de l'Église. Hein, on y reviendra dans un instant. Donc c'est une infraction qui n'existe que pour les clercs. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que quand on est laïque, on a le droit, pour le droit canonique, de commettre des infractions sexuelles ? Non ! C'est parce qu'il y a un vieux principe pour le droit canonique, très important, qui est un peu de subsidiarité. Le droit pénal canonique s'est intéressé aux infractions sexuelles des clercs, parce qu'on laisse au droit civil connaître les infractions sexuelles de tous les autres, c'est-à-dire des laïcs, mais il y a un intérêt très particulier à prendre en compte en droit pénal canonique les infractions sexuelles des clercs, parce que est en jeu le sacerdoce, est en jeu l'ordre sacré, les relations évidemment qu'il y a entre les clercs et les laïcs, les relations de pouvoir, pouvoir d'or, pouvoir de juridiction. Bon, pour toutes ces questions-là, le droit pénal canonique ne s'intéresse, sur le plan des infractions sexuelles, qu'aux clercs. Et puis il y a évidemment une troisième différence qui a son importance entre le droit pénal canonique et le droit civil canonique, c'est que le droit pénal canonique, il est universel. Il s'implique aux Français, aux Nicaraguayens, aux Philippins, j'en passe, et quelques 196 autres nationalités, à la différence du droit français qui ne s'applique qu'aux ressortissants, qu'aux infractions qui sont commises en France, même si elles sont commises par des étrangers. Le droit pénal canonique, lui, il est valable sur tout l'ensemble de l'univers. Voilà. Mais une fois qu'on a dit cela, qu'on a posé ces différences importantes entre le droit pénal canonique et le droit pénal civil, il faut bien constater qu'il y a, dans les limites que j'ai posées, il y a une réelle prise en compte, uniquement pour les clercs, pour les raisons que j'ai indiquées, des infractions sexuelles dans le droit canonique. Alors, il y a des racines très anciennes. La Didache n'est pas un texte de droit canonique, mais on peut dire que c'est un texte disciplinaire, déjà, à la fin du 1er siècle. Et puis, on voit, je ne vais pas vous faire l'histoire du droit canonique en la matière, mais dans les deux derniers codes, les deux seuls d'ailleurs, celui de 1917 et celui de 1983, on voit que la matière des infractions sexuelles des clercs est bien prévue. Alors, avec une petite nuance par rapport au droit civil, c'est que le droit pénal canonique n'a pas cette distinction hiérarchique entre des infractions de gravité différente. Il n'y a pas de distinction entre les crimes et les délits en droit canonique. Il y a même une certaine confusion de vocabulaire entre les deux. Et donc, par voie de conséquence, ça nous économise toutes les subtilités que Luc Michel nous a dépeint entre savoir s'il y a un viol, alors avec une pénétration qui relèvera d'un régime différent, ou un délit sans pénétration avec un régime et une procédure différente. Pour les clercs qui sont l'objet de la prévision d'une infraction sexuelle à l'égard de mineurs, eh bien, il n'y a pas de distinction entre les crimes ou délits, donc pas de distinction entre la pénétration ou la non-pénétration. Voilà. Alors, deuxième point qu'il faut indiquer, ces questions-là, même si elles existent de tout temps dans le droit canonique, n'ont très 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 longtemps pas occupé le devant de la scène. Alors, bien évidemment, c'est pas dire qu'il n'y avait pas des difficultés et des scandales, mais vous savez bien, on les traitait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ou 40 ans, on les traitait comme des choses relativement mineures. Pardon de dire cela, mais j'ai souvenir de cette expression que j'ai entendue il y a 30 ou 40 ans, où on disait « c'est des affaires de touche-pipi ». Une façon de banaliser déjà ces choses-là. Voilà. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'on banalisait ces questions-là dans l'Église? D'abord parce qu'on les banalisait un peu dans la société,
L'éducation nationale, c'était
pareil. Bien sûr. On banalisait dans la société longtemps ces affaires-là. Mais alors, il y avait des raisons un petit peu supplémentaires dans la sphère ecclésiale. Elles sont de deux ordres, à mon avis. D'abord, la première, elle tient à l'état du droit pénal canonique au XXe siècle. Le droit pénal canonique au XXe siècle était très discrédité dans l'Église. Très discrédité. Et ces dernières décennies, les évêques, notamment en France, mais pas seulement, rechignaient à appliquer le droit pénal canonique. Ils ne voulaient pas l'appliquer. L'idée même qu'il puisse avoir un procès canonique leur paraissait quelque chose de complètement démodé. Alors ils préféraient régler l'affaire comment? En bricolant, en convoquant le prêtre, en essayant de régler le problème, en lui disant « tu vas te faire soigner, on va te déplacer, on te mettra, etc. » Tout un tas d'arrangements qui permettaient de ne pas appliquer le droit pénal, ce qui à l'époque paraissait une bonne chose, il y a encore 30 ou 40 ans. Voilà. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, il y a un deuxième aspect plus profond, d'ordre de philosophie ou de théologie politique, c'est que l'Église revendiquait, et revendique toujours d'ailleurs, son autonomie par rapport à l'État. C'est la vieille conception qu'on appelle, nos autres canonistes, de la société parfaite, dans laquelle l'Église est une société sur le même plan que l'État, avec les mêmes droits, exactement égales, et donc exactement indépendantes. Et donc, il y avait une revendication consistant à dire, eh bien, laissez-nous nous occuper comme on veut de ces affaires-là. Que la sphère civile n'intervienne pas, ou si possible pas trop, dans ces affaires-là. Pour toutes ces raisons-là, qui se conjuguent dans une aimable tambouille, on ne parlait pas trop de ces affaires-là il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Alors, les choses ont changé. Quand est-ce qu'elles ont changé? Il est impossible de donner une date précise. Mais en France, c'est au tournant des années 80 et 90, qu'un certain nombre d'affaires qui ont éclaté au civil, ont interpellé directement l'Église, parce qu'à ce moment-là, on a dit à l'Église, vous êtes quand même responsable de vos clercs. Et puis, qu'avez-vous fait pour régler ce problème, si vous en aviez connaissance, etc. Donc, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont pété un peu la figure, il faut bien le dire, de la hiérarchie ecclésiastique, ce qui fait qu'elle a été amenée, dans l'urgence, à se préoccuper un peu de ces questions-là, au tournant des années 90. Voilà. Alors, en France, je parle de la France, je vais revenir à l'universel dans un instant. Alors, comment ça s'est manifesté en France? Eh bien, ne sachant trop comment traiter ces questions-là, à la fois sur le plan juridique et sur le plan médiatique, la conférence des évêques a recouru à des experts. Alors, elle a toujours des experts dans la Manche qui peuvent intervenir. Et puis, en confrontant différentes expertises qui avaient été sollicitées à des gens, auprès de gens qui sont proches de la conférence épiscopale, eh bien, la conférence des évêques s'est dit « ce serait bien qu'on ait une structure permanente pour nous aider à réfléchir à ces questions-là et nous aider à voir comment on peut se débrouiller par rapport à ça. Comment on peut répondre aux interrogations de la société qui nous dit « qu'avez-vous fait ?» et « comment se fait-il que vous ayez ce genre d'affaires-là » Alors en France, a donc été créé sous divers noms et avec divers profils des groupes de travail, parfois clandestins pendant certaines époques, à d'autres fois officialisés et qui se prolongent aujourd'hui, avec d'importantes nuances, dans la commission que préside M. Krisnar ici présent. Il se trouve que dès le début de ces affaires-là, en 1997, j'ai rejoint ces groupes de travail comme juriste et comme canoniste. Et je dois dire que pour moi, ça a été aussi une découverte très intéressante, parce que nous avons été amenés à travailler en pluridisciplinaire, pas seulement entre juristes ou canonistes, mais également avec des moralistes, également avec des, faut-il dire psychologues, psychiatres, psy, etc., toutes les déclinaisons de la profession autour du psychisme, des professions autour du psychisme, et ça a été extrêmement intéressant, ce travail-là, à la fois pour ceux qui y ont participé, et je pense pour les évêques, en tout cas ceux qui dirigeaient l'Église de France à l'époque, je pense en particulier au cardinal Billet, qui était le président de la conférence des évêques à l'époque. Et donc ça a amené l'Église de France à mettre ce sujet à l'ordre du jour de la conférence annuelle des évêques à Lourdes en 2000. Et donc c'est cette réunion qui a accouché de la déclaration de 2000, on l'appelle comme ça, dans laquelle, pour la première fois, avec beaucoup de prudence dans la rédaction et dans le vocabulaire, la conférence des évêques a dit, eh bien, les prêtres qui se rendent coupables de ces faits doivent répondre de leurs actes devant la justice civile, et la hiérarchie ecclésiastique, donc en clair les évêques, doit collaborer avec la justice civile en... Alors un débat qui a duré longtemps, fallait-il employer le mot « dénoncer » en dénonçant, ou est-ce que ce mot était trop dur? Finalement, c'est « signaler » qui a été retenu, c'est plus doux, mais ça voulait dire à peu près la même chose. Je dois vous dire, je ne trahis pas de secret là, je pense, je dois vous dire que ça a été assez dur d'arriver à la rédaction de cette déclaration. Parce qu'à l'époque, dans l'épiscopat, évidemment, tous ceux qui sont presque tous ceux qui étaient en charge à l'époque ne le sont plus aujourd'hui, même ne sont plus de ce monde. Mais à l'époque, c'était assez difficile pour les évêques d'accepter cette idée de collaboration avec la justice civile. Rien à voir avec une excuse pour les actes commis, mais on était encore dans un positionnement théologico-politique dans lequel c'était difficile de dire les tribunaux civils vont nous demander compte de ce que nous avons fait dans cette affaire-là, vous voyez ? On verra même que, dans un instant, je vous dirai que, 2 ans après, dans l'affaire Piquant, à laquelle je vais arriver, le cardinal Poupard avait signé un article, nous le connaissons tous bien ici, avait signé un article dans le Figaro disant « Mais qu'est-ce qui se passe? L'État va brider la liberté de l'Église. » La libertas ecclesiae. Je ne sais pas s'il réécrirait ça aujourd'hui, le cardinal Poupard, mais il l'avait écrit à l'époque, quand même. Voilà. Et donc, ça m'était assez dur d'arriver à la rédaction de ce texte. Comme avec Marie Jotil, nous avions été, elle et moi, les deux rapporteurs devant la conférence des évêques pour ce texte-là. On en a pris plein la figure, l'un et l'autre. Je me souviens d'un évêque qui, à l'époque, m'avait dit « Mais votre intervention, votre rapport manque absolument de nuances. » ce qui est tout d'un peu sévère. Bon, il se trouve que ce malheureux évêque, devenu retiré, a comparu devant le tribunal correctionnel il y a quelques semaines, quelques mois, pour non-dénonciation de ces faits-là. Hein. C'est Monseigneur Fort d'Orléans. Donc, comme il n'a pas comparu, vu son âge et son état de santé, il n'a pas pu mettre la nuance qu'il m'avait reproché de ne pas mettre dans ses affaires, et c'est bien dommage. Mais c'est ainsi, ça n'est assez dur. Mais voilà, on pouvait estimer que l'Église de France avait fait un premier pas. Et dans les mois qui ont suivi, elle a été poussée à aller plus loin parce que, il faut bien dire que c'est Rome qui a parlé et qui a obligé l'Église de France à aller encore plus loin. Alors vous savez que c'est le pape Jean-Paul II qui, sous la pression des scandales frappant de façon beaucoup plus grave d'autres pays que la France, je pense en particulier à l'Irlande, le pape Jean-Paul II a décidé de prendre à bras-le-corps cette question, mais au niveau du droit canonique universel, cette fois, en mettant en place ce qu'il faut appeler une législation d'exception. Et en disant, les dispositions traditionnelles du droit canonique remontant au siècle antérieur, qui confient la responsabilité du traitement pénal de ces questions aux évêques locaux, qui sont donc en porte-à-faux avec leur droit civil, inévitablement, nous oblige à prendre une législation d'exception pour traiter ces questions-là. Alors ça a donné lieu en 2002 à cette législation qu'on appelle des graviora delicta, des délits plus graves. Alors curieusement d'ailleurs, pour toujours un peu la pudeur, pour ne pas dire la pudibonderie du droit canonique sur cette question-là, on n'a pas consacré une législation aux infractions sexuelles, on a consacré une législation aux infractions les plus graves, et là-dedans il y a des infractions sexuelles, puis pour faire sans doute pendant, on a mis aussi les délits contre les espèces sacrées, quand quelqu'un agresse et saccage un tabernacle par exemple, évidemment il y a une disproportion énorme entre la fréquence des cas de l'un et la fréquence des cas de l'autre. Alors cette législation spéciale d'exception, il faut se dire en deux mots en quoi elle consiste, elle décharge les évêques de la première approche à porter sur la question. Elle oblige tout évêque qui a connaissance certaine, alors on peut discuter sur ce qu'est une connaissance certaine, c'est toute la difficulté pour les évêques, mais le texte dit ça, connaissance certaine de faits de ce type-là, donc commis par un clerc, bien sûr, un prêtre ou un diacre permanent, mais pas un permanent pastoral. Là, ça relève de l'évêque et de ses rapports avec le droit civil. Mais lorsqu'il s'agit d'un clerc, au sens que je viens d'exposer, a donné connaissance à Rome et concrètement à la congrégation pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire le gardien de la doctrine, des faits, à saisir cette congrégation pour la doctrine de la foi. Et la congrégation pour la doctrine de la foi va apprécier quoi ? La gravité, l'opportunité, il y a plusieurs critères d'appréciation, mais au terme de ces critères d'appréciation, elle décidera si l'affaire peut être renvoyée au jugement ordinaire de l'évêque, c'est-à-dire en clair s'il n'y a pas de risque de choc avec la justice civile, ou si la congrégation à Rome va garder le jugement de cette affaire-là. Alors c'est intéressant parce que ça transforme la congrégation également au tribunal pour une partie de son activité. Voilà. Donc c'est le système des graviora delicta qui a été mis en place par le pape Jean-Paul II. Et le pape Benoît XVI a complété ces normes en renforçant la sévérité sur certains points, notamment sur la prescription. Là encore, il y avait des délais de prescription traditionnels qui étaient en matière criminelle les mêmes qu'en matière criminelle pour la France, et qui ont été rallongés, comme la France d'ailleurs, selon le même schéma, mais avec un élément encore plus sévère pour le droit pénal canonique, puisque le droit pénal canonique prévoit que le pape peut lever la prescription. C'est-à-dire quand un crime lui paraît particulièrement odieux, même s'il était prescrit, le pape peut dire, eh bien, on s'assoit sur la prescription. Voilà ce que M. Macron ne peut pas faire. Donc quoi, Jupiter n'a pas tous les pouvoirs, à moins de pouvoir que le pape, vous voyez. Quelquefois. Voilà, donc c'est une législation d'exception qui... Alors vous allez me dire, est-ce qu'elle fonctionne ? Oui, elle fonctionne. Les évêques envoient les cas quand ils en ont connaissance. La congrégation examine ces cas. Quelquefois, elle les renvoie au jugement de l'évêque diocésain. Quand ils sont, alors, on peut discuter encore une fois sur ces critères, mais moi, j'ai été avocat dans une cause, alors pas en France, parce que je refuse d'être avocat dans des causes françaises en raison de ma qualité de magistrat, mais à Vienne, hein, pour lesquelles on reprochait à un prêtre d'avoir... alors, c'était compliqué, parce que c'était aussi dans le cadre de la confession, d'avoir caressé les seins d'une pénitente, mais pas plus. Pas moins, mais pas plus. Voilà. Alors ça, la congrégation, sans doute estimant que c'était pas très grave, l'avait renvoyé au jugement de l'ordinaire diocésain. Parfois, la congrégation se réserve évidemment les cas les plus graves et les juge elle-même. Elle juge, de fait, les cas. Alors, avec quelle célérité et quelle rapidité? Elle a beaucoup, beaucoup de cas. C'est un secret. On ne sait pas combien elle a de cas. Mais un jour, le cardinal Ladaria, enfin un jour, j'ai l'air de faire celui qui est un intime du cardinal Ladaria, ce n'est pas du tout le cas, il m'a reçu une fois seulement, et dans la conversation, comme c'est un Espagnol chaleureux, assez chaleureux quand même, hein, il a sans doute baissé sa garde, et il m'a dit, à l'époque, ils avaient 2500 cas en réserve. Alors c'est le monde entier, évidemment, leur domaine. Bon, je vous livre ça sous toute prudence, sous toute réserve, hein, parce que ça lui a échappé. Qu'en est-il aujourd'hui? Ça monte à 4 ans, ça. Qu'en est-il aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais vous voyez, ils ont pas mal de cas, donc comme ils n'ont pas beaucoup de personnel, que c'est évidemment une administration très très légère, l'administration du Saint-Siège. Très très légère, hein. Très légère. Donc ça va un petit peu lentement, mais cette congrégation a rendu des décisions extrêmement sévères. Alors, quelles sont les décisions qu'elle a rendues? C'est-à-dire quelles sont les peines, puisque dans le droit, nous sommes dans le domaine du droit pénal. Alors, le régime des peines, le système des peines en droit pénal canonique, est complètement distinct du système des peines en droit civil. En droit civil, vous savez, depuis Beccaria, droit pénal civil, depuis Beccaria, la peine archétype, la peine à tout faire, hein, pour éviter les châtiments corporels, c'est la prison. Bon, en plus, il y a l'amende, en plus, on essaye depuis 50 ans. Depuis 1945, de trouver des substituts à la peine d'emprisonnement, parce que ça coûte très cher d'emprisonner les gens. Hein, mais enfin, on n'a pas changé depuis Beccaria, c'est quand même la peine à tout faire, l'emprisonnement. Bon, en droit pénal canonique, il n'y a pas d'emprisonnement. On peut dire que la peine majeure, puisqu'il s'agit de clercs, ça va être la privation de l'état clérical. On va dire aux gens, eh ben, vous n'êtes plus prêtre. Alors, c'est plus compliqué que ça théologiquement, mais en pratique, ça aboutit à ça. Et puis il y a une autre peine qui est souvent pratiquée par la congrégation, c'est l'obligation de terminer ou de poursuivre sa vie dans un monastère, dans une ambiance qui n'est pas à la prison, mais qui est quand même fermée, dans une vie de prière et de pénitence. Voilà. Pas facile à appliquer localement. Un jour, l'archevêque d'une grande ville moyenne-orientale m'a consulté en disant « J'ai placé le prêtre qui a été condamné dans la maison de retraite du clergé. Alors évidemment, il peut sortir comme il veut, et comme il a une vie mondaine très agitée, il est toujours dehors. Voilà. Est-ce que vous croyez que je respecte la condamnation de la congrégation ?» Voilà, un régime de peine particulier. C'est pas sans critique, quand même, le travail de cette congrégation, parce que, je l'ai dit, c'est une justice et une législation d'exception. Quand on regarde concrètement comment ça fonctionne, les droits de la défense ne sont pas assurés. Alors moi, qui suis aussi magistrat civil, je peux vous le dire, je rougirais d'avoir, comme magistrat civil, hein, d'avoir appliqué une législation pareille. Les droits de la défense ne sont pas assurés. Le dossier est communiqué quelques heures au maximum avant l'audience. Le dossier avec tous les éléments à charge. On dit à l'intéressé, vous avez 2 heures pour regarder le dossier, qui peut parfois être volumineux. Il y a un avocat, mais l'avocat n'a pas le droit de plaider. C'est quand même une procédure qui, au regard de nos standards de modernes à nous, est quand même très embêtante. Mais enfin, cette procédure-là, on ne peut pas reprocher au Saint-Siège de ne pas avoir pris le problème à bras-le-corps et de ne pas avoir essayé, d'une part, de protéger un peu les évêques contre les risques. Alors ça varie suivant les pays, hein, mais dans certains pays, ils peuvent être dans une situation de porte-à-faux par rapport au droit civil très grand, et d'autre part, de ne pas avoir pris en compte la grave crise mondiale, universelle, qu'il y avait de ce point de vue-là. Voilà. Dernier point que je veux aborder maintenant. J'ai encore quelques minutes, je crois. Voilà. Vous avez vu la précaution oratoire. Je crois que j'ai encore quelques minutes. Ce qui, comme on n'ose pas me dire non complètement, me permet de parler encore pas mal de minutes. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, on pourrait dire que le problème est réglé. Or, on sait bien qu'il ne l'est pas. On sait bien notamment qu'il ne l'est pas en France. Je ne vais pas vous parler des autres pays, bien sûr, mais on sait bien qu'il ne l'est pas en France. Dans les autres pays, il y a d'autres problèmes qu'on ne connaît pas en France. Par exemple, aux États-Unis, il y a le problème financier. Quand un prêtre est condamné pour ça, hein, le diocèse est condamné à indemniser. Enfin, le diocèse ou les structures légales, les trustees qui portent l'argent du diocèse. Hein. Chez nous, ça n'est pas le cas encore, parce que notre droit, notre jurisprudence, hein, celle du Conseil d'État évidemment, hein, considère que les ministres, ou de la Chambre sociale ou de la Cour de cassation, considère que les ministres du culte ne sont pas dans une situation de préposé, ils ne sont pas dans un lien salarial, mais un lien autre. On ne cherche pas trop. Évidemment, le droit français ne va pas s'amuser à analyser le lien théologique qu'il y a entre un prêtre et son évêque. Mais on dit que c'est un lien autre. Alors, comme il n'y a pas de lien analogue au lien du droit français, donc les diocèses ne sont pas condamnés à indemniser. Combien de temps ça pourra tenir, ça? Je n'en sais rien. Pourquoi ça n'a pas été réglé en France complètement, cette question? Parce qu'elle est apparue une autre question, alors propre au droit français d'une certaine façon, ou en tout cas qui prend une importance toute particulière en droit français, c'est le problème qu'a évoqué Luc Michel, que certaines personnes, ben, beaucoup de personnes, sont tenues à une obligation de dénonciation quand elles connaissent les faits de ce type. Alors, c'est tout simple, hein, parce que c'est très très large, l'obligation de dénonciation, on est tous tenus à ça, tout citoyen est tenu de dénoncer tout crime, donc dès que vous avez connaissance d'un crime de viol, à l'égard de qui que ce soit, vous êtes théoriquement tenu de dénoncer. Bien sûr, il faut que vous ayez connaissance certaine, il ne faut pas que vous soyez menacé, etc. Hein, bien sûr, mais il y a cette obligation de dénonciation. Et en matière d'atteinte sexuelle, donc plus seulement les crimes, mais les agressions, les simples atteintes sexuelles, hein, également toute atteinte sexuelle commise sur mineurs. Vous voyez qu'on est au cœur de notre affaire. Voilà. Alors, la question s'est posée de façon aiguë à partir de 2002 dans l'Église de France, parce que il a été demandé des comptes à des évêques qui, dans la gestion parfois ancienne qu'ils avaient eue de ces cas, vous avez la gestion boutiquaire, hein, je te déplace, je t'envoie voir un médecin, etc., hein, bah, ils avaient la connaissance de ces faits-là, et ils n'ont pas dénoncé, ce qui souvent s'est traduit par la réitération de l'infraction, hein, la récidive de l'infraction, donc de nouvelles victimes. Voilà. Ces poursuites pour non-dénonciation n'ont pas été le fait des parquets. Les parquets ont en général classé ces affaires-là. Ce n'est pas les parquets qui se sont acharnés. Mais comme vous le savez, en France, l'action publique peut être engagée également par les particuliers, hein, sur plainte avec constitution de partie civile. Et donc nous avons en France des associations de défense, des mineurs, etc., qui n'ont pas hésité, alors, en 2002, à poursuivre l'évêque de Bayeux et Lisieux, Mgr Piquant, pour non-dénonciation de faits particulièrement sales, si j'ose dire, qui avaient été commis sur une longue période par un des prêtres de son diocèse, qui lui a été condamné par la justice civile. À l'époque, il n'avait pas fait l'objet de poursuites canoniques, d'ailleurs, mais il a été condamné par la justice civile. Mais voilà Mgr Piquant qui est poursuivi devant la juridiction civile pour non-dénonciation. Alors, inévitablement, ces évêques ont posé la question sur un autre terrain qui est intéressant pour le droit français, hein, mais qui est anecdotique pour le droit pénal. C'est la question du secret professionnel. Secret professionnel. Nous avons effectivement une très vieille tradition dans notre droit français de protection du secret professionnel. C'est pas seulement de protection, c'est d'obligation au secret professionnel. Le code pénal oblige un certain nombre de personnes, dont il ne donne pas la liste d'ailleurs. Enfin, dans l'ancien code pénal, il y avait la liste, mais il n'y avait pas les ministres du culte, c'est la jurisprudence qui l'a rajouté. Et dans le nouveau code pénal, il n'y a pas la liste, il n'y a pas de liste, mais il y a toute personne dépositaire par état ou profession de confidence. Voilà. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les ministres du culte bénéficient de cette obligation, qui en fait est une protection, au secret professionnel. Ça, c'est la jurisprudence qui l'a dit dès 1830. Et ils en bénéficient pourquoi ? On pense tout de suite aux confidences reçues en confession. Bien sûr, pas de problème, mais la jurisprudence s'est rarement attachée à la question de la confession, parce que la confession, vous savez bien, c'est un lieu clos entre deux personnes, celui qui donne la confidence et celui qui la reçoit. Et il y a peu de chances qu'il y ait de divulgation. Peu de chances. On peut penser à des cas dans lesquels il y aurait une obligation, une difficulté. Mais globalement, le secret de la confession n'a pas posé de problème. Mais la jurisprudence avait dit, les ministres du culte, c'est pas seulement pour le secret de la confession qu'ils sont tenus au secret professionnel, c'est pour tout fait appris à l'occasion de leur ministère, même en dehors de la confession. Par exemple, je vais voir mon évêque pour lui dire j'ai un grave problème de conscience parce que ceci ou cela, ou parce que je sais que mon curé a ceci ou cela ou tel problème, eh bien, je vais voir mon évêque parce qu'il est l'évêque, et donc, à partir du moment où je lui fais une confidence, il est tenu au secret professionnel. Si je vais le voir parce que c'est mon oncle, et que je lui dis « Tonton, tu ne pourrais pas me conseiller », là, c'est différent. Je suis venu lui faire cette confidence en qualité d'oncle, pas en qualité de son état. Mais quand c'est en qualité de son état, ils sont tenus au secret professionnel. Alors, devant le tribunal, les avocats de Mgr Piquant ont dit « D'accord, il est tenu d'une obligation de révélation, mais il est tenu aussi d'une obligation au secret professionnel qui vient annuler l'obligation de révélation. » Alors, c'était très embêtant pour le tribunal. Très, très embêtant. Et c'est là où vous voyez que la jurisprudence, souvent, elle est ingénieuse. La jurisprudence est une ingénierie. On a bien sûr la loi qu'on doit appliquer. Il y a les faits qui sont complexes. Il faut arriver à faire une application. C'est là où on peut parler parfois de pouvoir de la jurisprudence. D'arriver, voilà. Et le tribunal de Caen a trouvé intelligent. Alors, quelles étaient les contraintes qu'avait le tribunal de Caen ? Il lui paraissait, du contexte de l'époque, qu'il était impossible de relaxer Mgr Piquant. Le tribunal pensait que le message donné à l'opinion publique serait désastreux. Ils ne l'ont pas dit, ils ne l'ont pas écrit, mais c'est évident qu'ils ont cherché un moyen pour dire il faut condamner Mgr Piquant. Ah, mais condamner, s'il a droit au secret professionnel, on ne peut pas le condamner. Alors le tribunal de Caen a trouvé une astuce très ingénieuse. Ils ont dit, premièrement, les ministres du culte ont droit au secret professionnel, aucun problème, pour toutes les confidences qui leur sont faites à l'occasion de leur ministère. Réaffirmation du principe. Mais, deuxième temps du tribunal, dans le cas présent, il ne s'agissait pas d'une confidence. Parce qu'une confidence, ça doit être fait spontanément. Or, quand on regarde les faits et ce qu'ils ont produit, l'abbé en question, peu importe son nom, il n'a pas du tout avoué au prêtre, voilà, j'ai commis des crimes épouvantables, etc. Il n'a pas avoué à l'évêque, j'ai commis des crimes épouvantables. C'est l'évêque qui lui a dit, viens à l'évêché, on t'enferme dans une pièce, tu vas réfléchir, et puis je te cuisine, je t'interroge pendant 2 heures. Quand je suis fatigué, je te passe au vicaire général. Et à la fin, il a fini par avouer. Alors le tribunal a dit, bah, finalement, ce n'était pas une confidence reçue spontanément, puisqu'il a été cuisiné. Et donc, le secret professionnel qui existe pour les ministres du culte ne joue pas en l'occurrence, et donc on peut condamner, symboliquement, à 4 mois de prison et de sursis, Mgr Piquant. Bah, à l'époque, Mgr Piquant, je l'ai eu au téléphone aussitôt, je lui ai dit, il faut faire appel. Il faut faire appel, parce que là, c'est malin, c'est coquin de la part du tribunal, mais c'est pas le droit. Parce que 226.13, l'article qui prévoit le secret professionnel, il ne dit pas, il ne fait pas cette distinction entre les confidences reçues spontanément et celles reçues sur interrogation. Il dit tout fait quelconque appris à l'occasion de son ministère. Donc moi je suis à peu près sûr que si on était allé jusqu'à la chambre criminelle aurait probablement été très embêtée, mais aurait eu quelques difficultés à confirmer cette jurisprudence Piquant. Mais à l'époque, Mgr Piquant m'avait dit, ça c'est pour respecter cette position, je ne veux pas que le scandale dure encore, ça n'a que trop duré dans le diocèse, et donc je préfère me prendre les 4 mois avec sursis dans ma poche, et puis tourner la page sur cette histoire. Bon, mais c'est dommage pour le droit, dommage pour le droit. Voilà. Parce que vous voyez bien que cette question serait aussi dans le débat, alors, il y a la question de la prescription, mais cette question serait aussi dans le débat, à l'occasion, voilà. La question n'est pas terminée encore pour le droit français parce qu'il y a aussi le problème de la perquisition dans les lieux de culte. On a une autre affaire très importante où des atteintes sexuelles commises par un prêtre sur une jeune femme avaient fait l'objet de l'ouverture d'une information au civil et l'ouverture également d'une enquête au canonique. Et le juge d'instruction, malin, s'était dit « c'est pas la peine que je me fatigue trop à cuisiner, en plus il y a des règles de procédure évidemment à suivre, les officiaux n'ont pas les mêmes règles de procédure, je vais attendre que l'officiel ait fait son travail, puis après je vais aller saisir dans son bureau la procédure canonique. » C'est ce qu'il a fait, saisir la procédure canonique, dans laquelle l'officiel ayant plus de pouvoir pour interroger que le juge d'instruction. Bon, c'est trop complexe, mais retenez juste ça. Hein. Eh bien, on pouvait penser qu'il y avait davantage de choses dans le dossier canonique. Alors, c'est ce qu'il a fait. Le juge d'instruction, donc, gros scandale à Lyon. Hein. C'est à cette occasion que le cardinal Poupard avait écrit « La liberté de l'Église est en danger si les juges d'instruction viennent perquisitionner dans nos locaux ». Voilà. Bon, je ne vais pas détailler cette affaire-là. Là aussi, c'est terminé la Cour de cassation. Pas à l'avantage de l'Église, d'ailleurs, puisque la Cour de cassation a dit qu'en matière criminelle, le juge d'instruction tient tous les pouvoirs pour parvenir à la manifestation de la vérité. Donc ça veut dire que le secret professionnel ne peut plus jouer dans cette matière-là. Voilà. Donc c'est très intéressant pour le droit français. Mais en guise de conclusion, dans la minute qui reste, je voudrais vous dire qu'évidemment, vous avez donc beaucoup parlé de droit civil et de droit canonique, mais évidemment derrière tout ça, il y a des questions autre que juridique. Alors évidemment, il y a des questions sociologiques et des questions ecclésiologiques. Les deux ne sont pas les miroirs d'une de l'autre.